Bonjour Benoît Raphaël.
Bonjour French Web.
Vous êtes le créateur de Le Poste pour Le Monde, de Le Plus pour Le Nouvel Obs, de Le Lab, nouveau projet pour Europe 1, et de plein d'autres choses, dont Fuzhou, dont on dirait un petit mot, et expert également French Web, dont on reprend régulièrement les articles dans cette zone expert de French Web. On voulait vous interroger sur l'arrivée probable, en tout cas annoncée par Rue 89 hier, d'Anne Sinclair à la tête de la version française du HuffPo, le Huffington Post. Vous en pensez quoi, vous, globalement, de cette information? Est-ce qu'elle est crédible déjà? Est-ce que c'est une bonne nouvelle potentielle?
C'est une pas une rumeur, mais en tout cas c'est un bruit qui court depuis depuis quelque temps, hein, déjà l'arrivée d'Anne Sinclair, en tout cas le fait qu'elle aurait été appelée par Mathieu Pigasse, mais donc il y a rien qui a été confirmé ni infirmé, donc j'en sais rien. En tout cas le bruit tournait, c'est clair, c'est difficile d'en penser quelque chose. En tout cas on peut comprendre en fait la volonté d'un média américain qui dont la marque est parfaitement inexistante en France, hein, enfin, sauf dans le petit milieu parisien ou pas forcément parisien, mais en tout cas des connaisseurs du web et qui admirent tous d'ailleurs ce média qui a fulguré et qui a explosé dans le paysage médiatique américain en 5 ans seulement pour atteindre le niveau du New York Times. Donc pour ce média par contre en France n'a aucune existence particulière. Les Français le connaissent pas. Donc le fait de s'appuyer sur une célébrité pour le faire connaître, c'est un bon moyen de faire connaître la marque. Maintenant, est-ce que c'est la bonne personne pour le faire? Je sais pas. C'est un peu compliqué. C'est avec Anne Sinclair a longtemps attendu. C'est presque sacrifié, en tout cas pour la carrière de son mari, comme celle-ci semble être un tout petit peu estompée. En tout cas, la course à la présidentielle est perdue pour Dominique Strauss-Kahn. On peut penser qu'elle peut comprendre qu'elle a envie de revenir sur la scène et puis de prendre sa revanche. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire, juste après l'épisode de New York, alors que Dominique Strauss-Kahn n'en a pas encore fini, je dirais pas avec les affaires, mais en tout cas avec des gens qui veulent l'embarquer dans des affaires. Quelle qu'en soit la réalité, c'est peut-être pas le bon moment.
Elle était en charge du web pour TF1 il y a quand même 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a quitté le monde actif du web.
Oui, voilà. Alors, c'était vraiment au tout début du web. C'était à l'époque de ITF1. C'est aussi sans doute un moyen aussi de pas la mettre trop en avant au vu de ses relations avec Dominique Strauss-Kahn. Donc on peut pas vraiment dire qu'elle connaisse Internet. Mais de toute façon, là, pour ce que j'ai cru comprendre, il ne s'agit pas de la mettre à la tête du site comme une directrice générale. Ou même comme une rédactrice en chef, parce qu'effectivement, il faut bien connaître Internet pour ça. Donc, je pense que c'est surtout, j'imagine, pour donner de l'impact à la marque et puis pour aller chercher des chroniqueurs célèbres pour les faire participer au Huffington Post.
En tout cas, ce qui vous semble logique, vous, c'est l'association réelle entre le Huffington Post dans sa version française et Le Monde, et donc Le Poste que vous avez créé. D'ailleurs, il pourrait s'appuyer carrément sur la structure de Le Poste et sur cette communauté.
Alors c'est compliqué à dire parce que j'ai pas forcément envie de m'exprimer complètement là-dessus, mais je pense que la machine du Huffington Post, notamment l'outil technologique, est bien plus performant que celui du Post. Il y a énormément de développeurs qui travaillent chaque jour au Huffington Post, donc c'est une machine qui fonctionne très très bien. C'est un petit peu dommage en fait de pas l'utiliser. Je crois que d'ailleurs la principale puissance et la principale force en fait du Huffington Post, au-delà de ses méthodes de travail, c'est la technologie et puis une machine à SEO, c'est-à-dire en fait à référencement qui est absolument redoutable. C'est-à-dire la seule manière, je pense, qu'aura le Huffington Post de véritablement peser sur Internet pour se lancer. Non pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu la présence d'Anne Sinclair, parce que si elle ramène des chroniqueurs, c'est pas forcément les chroniqueurs qui vont faire le trafic. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Huffington Post. Ce qui fait surtout le trafic, c'est la partie entertainment, la partie sport également, donc avec tous les contenus qui buzzent sur Internet, des vidéos, des diaporamas, enfin tout le monde connaît bien ça. Et là, pour ça, avoir une marque forte n'est pas forcément nécessaire. Il suffit d'avoir des contenus qui sont très facilement référençables par Google.
Il y a quand même un encombrement potentiel de ce monde des pure players avec l'arrivée du Huffington Post. Et surtout, une guerre potentielle aussi autour de la réaction en temps réel dans l'éditorial, qui est quand même la marque de fabrique du Huffington Post.
Oui, alors c'est vrai que tout le monde est effrayé et fasciné par l'essor en fait du Huffington Post en quelques années. Donc on peut s'imaginer, on pourrait croire que arrivé en France ou en Europe, ils vont vivre la même aventure. C'est pas aussi facile que ça. D'abord parce que on l'a dit, le Huffington Post fascine, donc il a été imité, pas forcément dans son intégralité, pas forcément d'ailleurs par des gens qui avaient bien compris ce qui avait marché dans le Huffington Post, donc ils n'ont pas forcément imité les bons aspects, mais en tout cas il était beaucoup imité, et puis s'appuyer sur des tendances qui ont été assez intégrées par les pure players ou par les grands médias aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient tous en retard quand même. Donc, et le paysage est effectivement relativement grand en termes de pure player ou en termes de médias spécifiques. Hein. Vous avez parlé du Plus qui s'axe vraiment sur la chronique, le Lab qui lui va s'axer beaucoup plus sur la sélection de l'information et l'enquête sur le web. Donc vraiment, et puis vous avez Rue 89 qui est quand même extrêmement présent. Bon, mais Mediapart est payant, donc on n'est pas exactement sur le même modèle. Vous avez Slate aussi qui est là. Donc, et puis tous les grands médias. Donc on est quand même sur un paysage saturé où on le sait. La plupart des médias français sur Internet aujourd'hui, lorsqu'ils envisagent la présidentielle, ont comme modèle le Huffington Post. Donc, il est clair que la guerre ne va pas être facile à gagner pour le Huffington Post, mais je ne suis pas certain qu'ils visent vraiment la présidentielle. Je pense qu'ils voient un petit peu plus loin.
Selon le Nouvel Obs, deux rédacteurs en chef potentiels ont été rencontrés par Arianna Huffington. Vous avez des infos là-dessus ?
Non, puis si j'en avais, j'aurais du mal à les donner, c'est pas très élégant de ma part. J'ai rencontré quelques-uns des noms potentiels mais qui n'y allaient pas.
Vous avez écrit qu'apparemment ceux qui étaient pressentis, c'était plutôt des bons choix.
Oui, mais ceux que je pensais pressentis ont effectivement été contactés, mais apparemment ils n'y vont pas. Enfin, je ne sais pas, après, vous savez, entre ce qu'on me dit et ce qui est vrai, j'en sais rien, non. Je pense qu'il est clair en tout cas qu'il va falloir c'est compliqué en fait pour un rédacteur chef aujourd'hui d'accepter le Huffington Post. Le défi est passionnant, je pense qu'il faudrait y aller juste pour voir l'intérieur de la machine, quoi, l'intérieur de la bête, et voir comment fonctionne cette technologie et ces méthodes de travail qui ont fait le succès du Huffington Post. Je pense que tout le monde est très curieux de voir ça. Maintenant, après, sur un plan purement éditorial et journalistique, l'aventure au démarrage ne sera pas complètement passionnante puisqu'il n'y a pas beaucoup de journalistes, essentiellement des curateurs, c'est-à-dire des gens qui vont aller forcer un peu d'infos, qui vont aller chercher les contenus partout sur Internet, et puis un community manager. Donc, c'est 8 personnes en tout, mais pas sur les axes les plus intéressants. Donc, je suis pas certain que l'aventure pour un rédacteur en chef soit absolument passionnante. En tout cas, pour démarrer. Donc, c'est vrai que ce sera pas forcément facile de trouver quelqu'un.
Donc, vous n'êtes pas candidat, hein?
Pas du tout.
Non. Parce que vous, c'est Futsu, en ce moment, qui occupe votre esprit beaucoup. C'est une start-up que vous avez créée il y a quelques mois. Vous avez déjà levé 200 000 euros auprès de Claude Perdriel, qui est pas totalement un inconnu dans la boucle média et pure player. Et, c'est un principe de médias sociaux pour les marques. C'est le concept est où, là?
Alors le principe en fait de Futsu, c'est de permettre aux marques, ça peut être des marques médias d'ailleurs, mais des marques aussi tout à fait classiques, d'animer leur communauté autour de revues de presse interactives, de revues du web interactives sous un format média. On s'est rendu compte que d'abord les marques devaient de plus en plus avoir affaire au milieu de l'information, d'abord parce que très souvent elles sont un peu noyées dans un flot d'informations qui parfois les concernent ou concernent leur thématique. On a de plus en plus de mal à apparaître sur Internet. Elles gèrent des communautés également, mais elles ont besoin de contenu pour animer ces communautés. Enfin bref, les marques deviennent de plus en plus médias. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce créneau-là, qui est un créneau encore assez peu exploité, en tout cas par des sociétés qui ne font que ça. Et donc, on a inventé une plateforme, puis des méthodes derrière, évidemment, qui permettent aux marques vraiment d'animer leur communauté autour de contenu assez séduisant, avec une très forte valeur sociale.
Vous êtes combien sur cette opération ?
Alors, c'est une petite équipe. Hein. On a construit la plateforme dans un garage. Maintenant, justement, on cherche à... On a entamé une deuxième levée de fonds pour industrialiser la plateforme, parce qu'on a déjà des clients, donc il faut bien les satisfaire. Donc, c'est une toute petite équipe avec moins de 6 développeurs et puis, pour l'instant, un management qui ne se paye pas.
Merci beaucoup, Benoît Raphaël.
Merci, French Web.